Vous écoutez
RMC.
Un petit point sur les matchs amicaux. Vous le savez, tout le monde est en préparation avant la Coupe du Monde. RMC Radio officielle du Mondial du 11 juin au 19 juillet. Vous avez également la possibilité de découvrir les 48 podcasts qui sont évidemment une revue de toutes les nations qualifiées pour cette Coupe du Monde. Direction YouTube pour découvrir tout ça. La Belgique a gagné largement 5-0 face à la Tunisie. Succès du Portugal 2-1 face au Chili. Les deux équipes ont eu un expulsé. Nous avons eu également la victoire de l'Allemagne 2-1 face aux États-Unis, les États-Unis de Pochettino. On rappelle que les States sont évidemment l'une des nations qui sont organisatrices de cette Coupe du Monde. Oui.
Un but incroyable hein, d'ailleurs des États-Unis.
Ouais, je les sens super pas hein, les Américains. Hein. C'est malgré le fait qu'ils reçoivent cette compétition, qu'ils l'organisent, je les trouve beaucoup moins bons qu'il y a 4 ans.
Et en tout cas, il est sous pression Pochettino avec donc ce but de Robinson dont tu parles. La Suisse et l'Australie ont fait un but partout également entre le Panama et la Bosnie-Herzégovine. Et puis ça joue également actuellement. L'Angleterre pour l'instant mène 1-0 face à la Nouvelle-Zélande et c'est Harry Kane évidemment qui a inscrit le but. L'Écosse mène 4-0 face à la Bolivie et on vous donnera évidemment un petit peu tous les résultats par rapport à cette préparation. On rappelle que quasiment toutes les équipes ont fait la même chose. Première équipe, c'est un adversaire qui est qualifié également pour la Coupe du Monde, et le deuxième match, quand il y a un deuxième match, c'est une équipe qui ne s'est pas qualifié pour le Mondial.
Oui. Juste un truc sur le Léao quand même, parce que c'est une image étonnante dans un match amical. Bagarre quasi générale, enfin c'était un peu particulier. Et Léao, il faut quand même suivre. Il va évidemment pas être suspendu plus d'un match, donc ça va être le match amical à venir. Mais par rapport au staff, par rapport à l'équipe du Portugal, c'est pas totalement anodin. On va voir comment le staff réagit à ce qu'il a fait, parce que il a eu une attitude assez virulente. C'était assez chaud là avec les Chiliens. Ouais. J'ai regardé ça. C'est pas quand même un très bon signal non plus.
Ouais, effectivement, vrai, non, mais ça n'a rien à faire avant une préparation de Coupe du Monde.
Ouais, mais il y a un peu de pression, il y a un peu de tension. Enfin, tu vois, ça peut être compréhensible. Attention, ça ne devrait pas arriver sur un terrain de foot. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, après, le footballeur reste un humain. On le voit en championnat. Alors pourquoi pas en match amical après?
Oui, mais là, je suis d'accord avec toi. T'as qu'un objectif, c'est la Coupe du Monde.
Bien sûr,
et pas de blessé, en fait.
Compris que c'est complètement stupide de faire ça. L'image, déjà, que tu renvoies de toi, de ton équipe, de ta nation, c'est clair. Après, voilà, ça fait aussi partie du jeu, malheureusement. Et puis
mais
surtout,
lui,
le footballeur reste humain.
Il sait que l'enjeu est important parce qu'il s'est justifié après le match en disant qu'il voulait protéger son équipier, pas blesser l'adversaire. Ouais. Il a parlé des supporters. Enfin, je pense que s'il a agi comme ça, t'as raison, c'est qu'il doit y avoir de la concurrence interne et de l'attention pour les places de titulaire.
Ouais. Et puis, tu sais, c'est intéressant que tu dises ça, Flo, par rapport à la concurrence interne. On a toujours le sentiment, l'opinion publique, elle a toujours l'impression que le groupe, tous les joueurs sont amis, mais c'est pas du tout le cas. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, à un ou deux matchs justement du début de la compétition, mais il y a encore des postes et des positions de titulaires qui vont se créer, qui se jouent, et c'est vrai que parfois, mais t'as tendance à être tendu aussi parce que tu joues ta place, tu joues justement peut-être ta compétition. Et moi, je me souviens, alors c'est différent parce que j'ai jamais la chance de jouer une grande compétition, mais toujours à l'approche du début de championnat, les dernières semaines, c'est toujours un petit peu tendu parce que justement, t'as cette espèce de concurrence en interne qui parfois peut pourrir un groupe. Bon, on va voir ce que ça donne côté portugais. On sait qu'ils sont armés pour faire une belle compétition intrinsèquement. Ils ont une superbe équipe, mais ça peut expliquer aussi justement réaction de
l'équipe. L'équipe bien. Moi, j'ai vu, il y a des choses super. Bruno Fernandes, très bon.
Individuellement, le Portugal, c'est top. Après, c'est vrai que défensivement, c'est un petit peu le point d'interrogation aussi, un peu à l'instar de l'équipe de France. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, mais c'est vrai que, alors aussi la grande question, c'est de savoir si Cristiano va débuter.
Il sera titulaire, oui, il l'a dit, hein, Roberto Martinez.
Vrai qu'il avait prêché quand même Cristiano Ronaldo, encore peut-être présent dans 4 ans. Donc
oui,
ça voudrait dire
donc pour lui, il est
capitaine.
Voilà. Et il était effectivement une nouvelle fois titulaire et capitaine là lors de ce match, et il compte absolument sur lui. Messieurs, d'autres informations également. Leonardo Balerdi, c'est vraiment la saison de l'angoisse pour lui. Évidemment, il est en grande difficulté avec Marseille. Il a perdu son brassard cette saison. Il était dans le groupe argentin pour participer à la Coupe du Monde. Eh bien, il s'est blessé au mollet droit lors de l'entraînement et donc il est forfait pour le Mondial. C'est vraiment la saison, mais à oublier, Flo, c'est terrible. Et c'est aussi important pour Marseille parce que l'idée, c'était de le vendre. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas les croisés, mais quand même.
Oui, non, ça, pour la vente, oui, c'est pas un souci. En revanche, J'ai envie de te dire que psychologiquement, je suis quasi persuadé qu'il y a, avec toute la saison qu'il a vécue, peut-être là aussi par rapport à ce dont on a parlé sur la concurrence interne, sur la pression qu'il y a avant une Coupe du Monde, je pense que ce gars-là, Balerdi, il a sans doute plein de qualités. Il y a plein de coachs qui lui ont vu plein de qualités. On a vu aussi, nous, beaucoup de ses défauts. Il a, psychologiquement et en termes de, on va dire, de mental, il a une faille à un moment donné. Et moi, je vois toujours un lien entre la blessure physique et le mental. Et Balerdi, cette saison-là, il n'avait pas les épaules et surtout le mental pour résister à tout ce qu'il a traversé. Donc, je suis désolé et déçu pour lui. Moi, j'ai déjà surpris, d'ailleurs, qu'il soit sélectionné, hein, qu'il soit dans la liste d'Argentine. Mais bon, voilà, c'est une saison à oublier pour lui. Et effectivement, il sera sans doute, il va être vendu de toute façon, quoi qu'il arrive.
D'autant plus qu'il se blesse à l'entraînement, hein, il se blesse au mollet. Enfin, tu vois, c'est pas un coup. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi la saison est longue, hein, pour tous les joueurs, hein, pour les joueurs de l'Olympique de Marseille comme pour d'autres, mais c'est vrai que quand tu regardes très très rapidement les Marseillais entre la Ligue 1, la Champions League, les matchs d'amicaux ou les matchs de qualification pour les internationaux, mais ça fait beaucoup aussi. Il faut en plus de ça digérer un petit peu les températures aux États-Unis, parce qu'on sait que les Argentins ont plus s'entraîné au Texas. Il fait très très chaud au Texas en ce moment, donc voilà, ceci explique peut-être cela. Mais c'est vrai qu'il y a des saisons comme ça, des saisons noires entre guillemets pour les joueurs, et c'est bien le cas pour Leonardo Balerdi.
Une petite information que je trouve assez sympa, vous savez que Camavinga n'a pas été retenu avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, et ben il est quand même allé aux États-Unis au mois de juin, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a validé une formation de quelques jours à la Harvard Business School. Ouais, il est allé à Harvard.
C'est beau ça, c'est beau. Bravo à lui. Après, ça dépend pour faire quoi derrière.
Eh ben, il a fait une petite formation.
Ouais, une formation pour quoi? Pour
quelques jours d'apprentissage, d'écoute et de croissance.
D'accord. Croissance, pas croissant.
Croissance. Ouais,
d'accord.
C'est ce qu'il a écrit sur ses réseaux sociaux. Non, mais franchement, c'est original et
ça se fait de plus en plus, hein. Ça
oui,
se fait de plus en plus.
Mais c'est, on n'a pas eu beaucoup de footballeurs forcément qui sont allés faire une petite formation.
C'est une formation dans le domaine du divertissement et du sport qui est proposée par. Alors, c'est à Boston d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est ça.
Je suis allé la visiter en mars dernier. Magnifique.
Ouais. Il n'est pas loin de l'équipe de France. Il n'était pas loin de l'équipe de France.
Mais c'est la grande tangente maintenant des sportifs professionnels, même des footballeurs. T'en as de plus en plus qui utilisent un petit peu leur temps libre pour aller se former, que ça soit aux États-Unis, que ça soit avec l'UEFA, avec la FIFA. Moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues et d'ex-collègues qui n'hésitent pas justement un peu à prendre le contre-pied de ce qu'on pensait des footballeurs professionnels pendant X années, où est-ce que justement ils essaient d'utiliser leur temps libre pour essayer de se former, parce que la précarrière aussi arrive vite. Et c'est vrai que
Maxime, il a pris la formation After Foot.
Bah ouais, tu sais qui étaient mes professeurs, Flo. Voilà. T'en fais partie, donc merci. Si tu me trouves moyen, c'est de ta faute.
Voilà. Donc il a pris en tout cas quelques jours pour aller faire une petite formation.
Ça m'aide bien.
Moi je trouve ça très chouette comme.
C'est un gars qui a la tête sur les épaules et les oreilles bien ouvertes sur ce qu'il faut faire. Et c'est un mec intelligent, c'est super. T'as raison, Karine, c'est intéressant.
Ça envoie un beau message en tout cas. Ouais, c'est vrai que tous les jeunes qui regardent le ballon, qui ont tendance à uniquement se focus un petit peu sur le terrain et sur le footballeur professionnel en lui-même, ça montre aussi et ça prouve que voilà, certains footballeurs ont quand même la tête sur les épaules.
Ça change, en tout cas, ça dénote. Un dernier mot, messieurs, c'est Philippe Montagnier qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Il avait un contrat jusqu'à la fin du mois. L'idée, c'était évidemment qu'il fasse remonter Saint-Etienne en Ligue 1. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont arrêtés au niveau des barrages. Est-ce que vous avez envie de revoir Montagnier sur un poste en Ligue 1 ou en Ligue 2? Parce que quand même, globalement, ce qu'il a fait, c'est pas mal, mais il a raté un petit peu la dernière marche.
Ouais, moi je suis pas fan, convaincu. C'est pas que je suis pas fan. J'aime beaucoup Philippe Montagnier pour plein de raisons, mais tu vois là ce que j'ai vu de Saint-Etienne, même avec lui sur la fin de saison, y compris sur le barrage, j'ai trouvé ça juste. Alors on peut parler de l'effectif, hein, évidemment, il y a pas que Philippe Montagnier. Je sais pas. J'ai l'impression que aujourd'hui il faut être un peu plus inventif aussi dans ta recherche de coach. Parfois, tu sais, pour aller trouver des coachs capables de bonifier des effectifs parfois un tout petit peu juste, et j'ai pas eu la sensation que ce soit le cas sur la fin de saison.
Dernier mot, je veux te faire réagir, Maxime, sur Dujeu. Nous étions hier soir avec le président de d'Angers, Saïd Chaban. Dujeu qui est parti, qui a été libéré. On l'annonçait plutôt à Nice, et finalement, il serait dans la shortlist de Lorient. Tu trouves que ça serait une belle progression pour lui?
Belle progression, oui, dans la mesure où tu sais qu'Angers, c'est le plus petit budget de Ligue 1. Donc, à partir du moment que tu vas dans un club qui a un peu plus de moyens, ça peut être une progression. Après, passer derrière Pantaloni et Cahuzac qui ont fait un superbe travail en emmenant cette équipe de Lorient là où est-ce que personne pensait qu'il terminerait, avec une série d'invincibilité, je pense, de 13 ou 14 matchs. Enfin, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que Dujeu a énormément de qualité, qu'il a un profil pour justement faire jouer des équipes un peu plus huppées, entre guillemets. Après, voilà, bah, écoute, le plus important, c'est qu'il retrouve un banc et surtout qu'il puisse se montrer pour derrière faire un step supplémentaire pour aller chercher une équipe du top 5 en Ligue 1.